Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Bonjour, bienvenue dans notre émission Au fil des pages, une émission qui aujourd'hui va nous faire voyager jusqu'en Russie, dans la Russie impériale, et nous parlerons des palais d'été des tsars. Avec nous justement aujourd'hui Emmanuel Ducamp, bonjour. Emmanuel Ducamp, vous êtes historien d'art, vous êtes un fin connaisseur de la Russie, vous avez publié de nombreux ouvrages et vous venez nous voir aujourd'hui pour parler d'un très beau livre que vous venez de publier aux éditions Duchesne, un livre intitulé « Palais d'été des tsars ». Vous avez signé les textes et les notices, les photographies sont de Marc Walter, un très beau livre. Alors en le parcourant, en le feuilletant, on se demande comment a commencé cette histoire d'amour entre les souverains russes et ces résidences d'été. Ça commence sans doute avec le premier des Romanov, mais visiblement très vite, chaque souverain a continué à construire.
Oui, l'histoire de ces résidences d'été est assez logique. Comme on le sait, Pierre le Grand, lorsqu'il décide de créer Saint-Pétersbourg, nouvelle capitale de son nouvel empire en 1703, arrive dans un endroit assez inhospitalier. Les terrains qu'il a choisis pour l'établissement de cette nouvelle capitale sont assez marécageux. La légende rapporte que de nombreuses personnes ont trouvé la mort justement dans l'édification de cette capitale. Il y a de nombreux miasmes parce qu'il faut tout simplement assainir et très rapidement l'empereur et la famille impériale et ses proches éprouvent le besoin d'aller se reposer dans des endroits un peu plus clément. Les premiers en fait établissements que choisit la famille impériale se trouvent tout simplement un peu plus loin que la ville sur le golfe de Finlande avec une vue assez belle parce que généralement les terrains sont en surplomb et c'est là que vont apparaître les premières résidences qui sont à Strelna et à Peterhof.
Alors l'ensemble de ces résidences, de ces datchas, de ces cottages dont on va parler aujourd'hui se trouvent toutes réunies dans un périmètre assez réduit.
Oui, tout à fait. Un peu comme Versailles. D'abord, c'est encore une raison logique. Il faut pouvoir s'y rendre assez rapidement, que ce soit en carrosse ou bien quand les résidences sont au bord de la mer par bateau, ce qui était d'ailleurs souvent plus rapide. Et si Peterhof est à, je ne sais plus, entre 20 et 25 km de la ville, Oranienbaum est distant de peut-être 5 ou 6 km de plus. Et pour les résidences qui sont installés au sud et au sud-ouest de la ville, qui sont les palais de Tsarské Selo, le grand palais de Catherine II, ensuite le palais de Pavlovsk, celui de son fils Paul Ier, et le palais de Gatchina, ils sont distants de 25-30 km. C'est celui de Gatchina qui est le plus éloigné de la ville, environ 45 km. Mais ce sont toujours des distances qu'on peut couvrir, je dirais, en quelques heures de cheval.
Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de ces marécages, de ces miasmes qui résultaient du choix de Pierre Ier d'avoir choisi un terrain pas très hospitalier. On a l'impression d'entendre des choses qu'on a entendues à propos de Versailles. La question que je me posais aussi, c'est est-ce que lorsqu'on construit Peterhof, on n'est pas encore au début dans l'imitation ? Est-ce que Versailles est un modèle ? C'est le modèle un peu universel. Est-ce qu'au début, il ne s'agit pas d'affirmer la puissance d'une nation nouvelle qui se tourne vers l'Europe ?
Oui, ça c'est une évidence, puisque Pierre le Grand avait l'habitude de dire que justement Saint-Pétersbourg était une fenêtre tournée vers l'Europe. Quand nous disons qu'il a choisi des terrains inhospitaliers, il a en fait choisi le bord du golfe de Finlande, puisque vous savez que jusqu'à cette époque, le seul moyen que les Russes, la flotte russe, avait de sortir de la Russie, c'était de passer par le Bosphore. Et donc, la flotte russe était à la merci des Turcs.
Bien
c'est
sûr.
Pour ça que Pierre le Grand choisit un accès qui a beau être pris 4 ou 5 mois par les glaces, qui est quand même plus libre que l'accès par les Dardanelles et le Bosphore. jusqu'à ce qu'il triomphe de la Suède au début du XVIIIe siècle. La résidence de Peterhof, au départ, n'est pas véritablement une copie de Versailles, même si on y retrouve en effet de nombreux traits, parce que tout simplement, elle est commencée avant la visite que l'empereur fait en Europe, non pas en Hollande, où il va en effet en 1698-99, mais en tout cas à Versailles, où il vient très peu de temps après la mort de Louis XIV, puisqu'il vient en France en 1717 visiter le régent et Louis XV. À cette occasion, il voit le parc de Versailles, il en découvre les fontaines, et c'est vrai que de nombreuses fontaines de Peterhof sont l'interprétation, si ce n'est la copie
des bosquets
pour trait,
de Versailles.
De certains des bosquets de Versailles. Quand on retourne à Versailles aujourd'hui, et quand on y va, d'ailleurs j'engage vos auditeurs à s'y rendre absolument avant la fin de la semaine prochaine, quand on va voir l'exposition du mobilier d'argent qui a lieu en ce moment dans le grand appartement, au château, on comprend pourquoi, lorsque des étrangers arrivaient à Versailles, ils en repartaient bouche bée. Oui. C'était un éblouissement, aussi bien en termes justement de jardin que d'architecture ou d'art décoratif. Donc ça n'a absolument rien d'étonnant. Ce qui se distingue en Russie, c'est que l'interprétation qu'on donne des bâtiments qui peuvent être servir de modèle, l'échelle est toujours différente. L'échelle est plus grande. Les Russes, c'est ça à mon avis que je mettrais en avant. Est-ce que c'est inscrit dans leur sang? Comme ils ont justement un empire gigantesque, ils ne voient que par le gigantesque. Et Peterhof est à cette image. Le parc n'est pas plus grand que celui de Versailles, mais c'est qu'à Peterhof, l'approvisionnement en eau est constant. Il n'y a pas, en effet, les problèmes de Marly et de Versailles. Comme Peterhof est installé sur une espèce d'éminence, on a construit, au début du XVIIIe siècle, un vaste réseau de canaux qui doit amener l'eau justement aux fontaines de Peterhof, mais on n'a pas besoin de les ouvrir ou les fermer à volonté. Elles fonctionnent jour et nuit. Elles pourraient en tout cas fonctionner jour et nuit. C'est assez amusant d'ailleurs d'entendre les Russes se hausser un peu du col en disant qu'à Versailles, elles ne pourraient pas.
Et votre livre le montre d'ailleurs. Aujourd'hui, si on en a une idée de ces fontaines légendaires et de certains des bosquets disparus de Versailles, c'est à Peterhof qu'il faut se rendre.
Oui, parce qu'il existe en effet plusieurs bosquets inspirés par ceux de Versailles qui ont disparu à Versailles. Par exemple, le fameux bosquet où il y avait ce merveilleux chêne qui crachait de l'eau par toutes ses branches et toutes ses feuilles, et qui existait à Versailles, mais qui n'y existe plus. En revanche, il existe toujours à Peterhof. Et il existe aussi ce qui donne, je pense, une meilleure idée de ce qu'étaient des jardins baroques au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire des fontaines qui étaient plus des amusements, ou qui étaient en tout cas en même temps des amusements que des choses belles à regarder. Il y a toujours, quand on va à Peterhof aujourd'hui, alors les fontaines ne fonctionnent pas, évidemment, à cause de la saison d'hiver, elles ne fonctionnent pas toute l'année, elles fonctionnent généralement du 15 mai jusqu'au premier week-end d'octobre. Et quand on va là-bas, le parc est un parc énormément visité. Il y a plusieurs millions de visiteurs à Peterhof par année. Et c'est toujours assez amusant, justement, de voir les foules qui sont là. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de Russes, d'abord. Il y en avait, c'est vrai, plus pendant la période soviétique, puisque maintenant les Russes voyagent moins, parce que autrefois, pour eux, les voyages étaient beaucoup moins coûteux. Maintenant, c'est assez différent. En tout cas, quand il y a des enfants, c'est assez drôle de les voir s'asseoir sur un banc et puis d'attendre que la fontaine se déclenche, qui va les arroser copieusement, parce qu'il y a un peu plus loin, généralement, un garde qui est dissimulé dans une guérite et qui appuie sur la manette qui va justement libérer l'eau. Et ça, c'est assez plaisant. Ça donne une idée, justement, de ce que, comme je disais tout à l'heure, pouvait être un jardin baroque, dont nous ne voyons, nous, hélas, plus que la grille, le cadre général, mais pas forcément tous les raffinements burlesques.
Oui, c'est beaucoup moins immédiat aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Bien que les récentes restaurations de Versailles, par exemple la restauration du bosquet de Lancelade, montrent, j'allais dire, une facette peut-être un peu plus baroque que celle à laquelle on était habitué.
Alors, on parlait tout à l'heure d'influence, je parlais de l'influence française, mais on retrouve aussi des éléments d'influence suédoise, hollandaise, italienne. Est-ce que vous arrivez-vous, en tant qu'historien d'art, à retrouver, ou est-ce que vous pouvez même le dater peut-être, la naissance d'une architecture russe typiquement nationale ?
C'est assez difficile, parce que tout ça se mélange un peu.
C'est le sentiment qu'on a.
À la fois parce que les artisans que fait venir Pierre le Grand, justement pour établir cette nouvelle capitale, viennent d'un peu partout. Il y en a une bonne partie qui vient de Hollande, ça c'est vrai, mais il y en a aussi qui viennent d'Angleterre, il y en a qui viennent de France. On sait que l'empereur fait appel à Leblon, l'architecte français, pour lancer, dessiner des plans justement pour sa nouvelle capitale. Leblon fait même des dessins pour le palais de Strelna, qui est un des palais impériaux installé sur le bord de la côte, juste avant d'arriver à Peterhof, lorsqu'on vient de Saint-Pétersbourg. Mais on réalise assez vite que la situation géographique de ce palais est favorable, si ce n'est que l'eau ne peut pas y arriver aussi facilement qu'à Peterhof. Donc en fait, les plans dessinés par Leblon ne sont pas tous mis à exécution. On construit un palais qui existe encore d'ailleurs et qui est admirable et qui a été récemment restauré. Il a longtemps été une académie navale pendant la période soviétique, mais il a été restauré récemment sur les ordres du président Poutine pour devenir une résidence d'État qui a servi notamment au moment du tricentenaire de la fondation de la ville en 2003. Et le palais de Strelna a des caractères plutôt italiens. Si on va un peu plus loin sur la côte et quand on arrive à Peterhof, si on regarde l'un des premiers palais construits par Pierre le Grand, un palais en briques, parce qu'il avait aussi construit un petit palais de bois qui existe toujours, ce palais de briques qui s'appelle Mon Plaisir, c'est vrai que là-bas souvent les pavillons ou les palais...
Il y a Marly aussi, je crois.
Oui, exactement. Justement, on est non français, ce palais de Mon Plaisir est presque entièrement hollandais d'architecture extérieure. En revanche, à l'intérieur, on retrouve des détails français, puisqu'il y a des plafonds qui sont assez largement inspirés de pillements. En revanche, certains intérieurs, justement, sont plutôt hollandais, comme ceux du palais de Marly, où on retrouve une cuisine entièrement tapissée de carreaux de Delft. C'est un mélange. Quant à donner la date, c'est-à-dire de l'apparition de l'architecture russe, mes amis russes me feraient passer au knout.
Alors on va éviter...
Si je disais qu'elle n'existait pas avant, elle existait en tout cas à Moscou.
Évitons les incidents diplomatiques.
Oui, à Pétersbourg. Moi, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, le caractère russe que je vois, qui n'existe nulle part ailleurs, c'est ce gigantisme. Même si, en effet, on trouve des traits d'architecture étrangers, ce qui ne l'est pas, c'est la taille. Et ça l'est jusqu'à aujourd'hui. Donc, je le vois, moi, plutôt avec des yeux russes. Et je trouve aussi qu'il faut faire très attention. Pendant très longtemps, le préjugé commun a été de dire « mais ce sont des étrangers qui ont bâti Saint-Pétersbourg ». C'est vrai qu'il y avait des architectes étrangers, c'est vrai qu'il y avait des artisans étrangers, mais la plupart étaient russes. Et nous avons beau jeu de dire que ce sont des étrangers qui ont bâti Saint-Pétersbourg ou qui ont œuvré à Saint-Pétersbourg. Si on regarde l'histoire des arts décoratifs français au XVIIIe siècle, nous nous gaussons, nous bombons le torse quand nous parlons de Riesner, de Joseph Baumhauer, de Schwertfeg, qui étaient tous des ébénistes dont nous ne songerions pas une seconde à dire qu'ils étaient allemands alors qu'ils étaient d'origine allemande et nous les voyons automatiquement français, alors que quand on parle des Russes, automatiquement on veut les voir étrangers à la Russie. Ça n'est, je trouve, pas très juste.
Sans oublier le Bernin dont on a francisé le nom pour essayer d'oublier qu'il avait été appelé à la cour de France par Louis XIV.
Par exemple.
Je vais continuer de vous provoquer un peu. On a longtemps dit dans les années 1970, 1980, peut-être à une époque où l'Europe était divisée en deux blocs antagonistes et où il était beaucoup moins facile pour un touriste de se rendre à Saint-Pétersbourg, que les architectes, les maîtres qui partaient comme ça se travailler pour les tsars de Russie étaient des petits maîtres, sous-entendu qui n'avaient pas fait carrière en France, en Italie, en Angleterre, et qu'ils allaient se vendre aux tsars.
Bah, si on pense à Leblon, c'est la meilleure réponse pour dire le contraire. C'est vrai que les grands praticiens n'avaient pas forcément le temps d'aller en Russie. Les architectes comme Rastrelli, qui a œuvré pendant le règne d'Élisabeth Ier, la fille de Pierre le Grand, et pendant le règne de Catherine II, ou Rinaldi, n'avaient pas forcément beaucoup construit en Russie. Rastrelli n'avait quasiment rien construit, puisqu'il était en fait le fils d'un sculpteur qui était au service de l'impératrice Anna Yanovna, la nièce de Pierre le Grand, c'est vrai. Mais quand on voit ce qu'ils ont fait, ça n'a rien à envier à ce que leurs homologues européens de l'époque construisaient, ou à Turin, ou à Milan.
Donc c'était la pure chauvinisme.
Oui, je pense que on veut toujours voir chez les Russes un côté plus barbare que celui qu'ils n'ont, et on veut souvent le voir jusqu'à aujourd'hui, ce que je trouve assez indélicat.
Alors Emmanuel Ducamp, nous allons marquer une pause et nous repartirons ensuite sur les bords de la Baltique.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe, vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Alors nous retrouvons Emmanuel Ducamp qui est venu nous présenter son livre « Palais d'été des tsars » qui vient de paraître aux éditions du Chêne. Nous retournons à Saint-Pétersbourg et on va peut-être découvrir justement certains de ces palais d'été. Alors ils sont d'ailleurs très très divers parce qu'on parle de palais d'été mais il y a des résidences, il y a des pavillons, il y a des cottages, donc on trouve des styles très différents.
Oui, une des remarques préliminaires que l'on pourrait faire, c'est que dvarets, qui est le mot russe qui signifie palais, n'est pas employé en Russie dans le même sens qu'en France ou ailleurs. Un palais peut, en Russie, n'avoir que 3 pièces ou 5 pièces. C'est sa destination qui est essentielle. Si il est utilisé par la famille impériale et éventuellement d'autres grandes familles, on va presque automatiquement lui donner le nom de palais. Donc ce petit palais de Marly, par exemple, qui est à l'extrémité du parc de Peterhof, n'a, si je réfléchis, en effet, au rez-de-chaussée que quelque chose comme 5 pièces. Mais c'est ça aussi qui en fait le charme, parce que généralement on trouve dans ces grands domaines, puisque chacune des résidences impériales couvre généralement plusieurs centaines d'hectares, le palais de Gatchina a 600 pièces, celui de Tsarskoye Selo fait 305 mètres de long, le parc de Tsarskoye Selo fait quelque chose comme 400 hectares, celui de Pavlovsk fait 600 hectares, l'un est une villa italienne, l'autre a une architecture plutôt sévère. C'est ça justement, c'est cette variété qui est un des attraits de cette architecture. On ne trouve pas du tout les mêmes choses, les pavillons datent de toutes les périodes, c'est-à-dire qu'il y en a, comme ceux de Peterhof, qui datent du début du XVIIIe siècle, le palais de Montplaisir, celui de Marly, par exemple, mais il y en a aussi, comme vous le disiez, comme vous le soulignez, qui sont des cottages. datant du XIXe siècle, et notamment la très belle maison néo-gothique construite à partir de 1825 environ par l'architecte Ménélas pour l'empereur Nicolas Ier. Et c'est assez amusant parce que le marquis de Custines, auquel il ne faut pas toujours faire confiance parce qu'il était assez partial quand il parlait ou quand il écrivait sur Nicolas Ier, le marquis de Custines est le premier à se précipiter au cottage de Peterhof quand on lui fait savoir qu'on a réussi à obtenir pour lui une invitation de l'impératrice Alexandra Féodorovna, et il s'y rend immédiatement, et quand il écrit, il dit « on se croyait au bord de la Tamise ». C'est une maison, en effet, qui est une maison à dimension familiale. C'est là aussi, je pense, que, à la différence des palais que nous connaissons, et comme Marly, en plus, qui était le palais le plus intime, ou la résidence la plus intime de Louis XIV, a disparu quasiment entièrement, on ne peut plus en avoir une idée, j'allais dire, honnête. En revanche, en Russie, on trouve justement non seulement les grandes résidences, les grands bâtiments qui servaient aux réceptions de la cour lorsqu'elle se déplaçait justement dans les résidences d'été, mais on trouve également les maisons de famille. Et le petit palais de bois de Pierre le Grand à Strelna en est une, le cottage néo-gothique de Nicolas Ier à Peterhof en est une autre, les pavillons néo-grecs construits par l'architecte Stackenschneider à Peterhof dans les années 1840, toujours pour l'impératrice Alexandra Féodorovna, la femme de Nicolas Ier, et sa fille, la grande-duchesse Olga, qui était devenue la reine du Wurtemberg, donnent justement une idée assez précise et très juste de ce que pouvait être la vie de famille
Oui, c'est très touchant d'ailleurs, parce qu'on sent, alors il doit y avoir d'un côté un protocole écrasant, une étiquette officielle dans des palais officiels comme l'Ermitage, mais on a le sentiment que la famille aime, à chaque génération, à chaque tsar, se retrouver en famille,
tout à fait,
en fin de semaine ou l'été, dans une atmosphère beaucoup plus, pas relâchée, mais en tout cas beaucoup plus intime.
Si, presque relâchée. Il y a en effet, même pendant l'été, des cérémonies de la cour qui ont lieu dans certaines des résidences, et notamment à Peterhof, parce que Peterhof, sous presque tous les règnes, sauf celui de Catherine la Grande, est une des résidences favorites des empereurs de Russie. Mais Nicolas Ier, après lui Alexandre II, le fils d'Alexandre II, Alexandre III, et c'est sans doute d'ailleurs un détail qui éclaire sur le cours des événements, et notamment au début du XXe siècle et la Révolution, c'est que cette vie de famille finit par prendre, non pas le dessus sur la vie officielle, mais finit par paraître de plus en plus essentielle au souverain. Et alors que Nicolas Ier et Alexandre II, même s'ils ont une vie de famille, sont encore, je dirais, approchables par le commun, la population russe de Saint-Pétersbourg, à partir d'Alexandre III, les choses changent du tout au tout, principalement pour des raisons de sécurité. Lorsque Alexandre II est assassiné en 1881, au cours de sa promenade matinale et quotidienne qu'il faisait généralement le long des canaux de Saint-Pétersbourg derrière le palais d'hiver, eh bien Alexandre III décide que pour des raisons de sécurité et à cause des menaces que représentent les courants anarchistes et nihilistes, la famille impériale va tout simplement quitter la ville de Saint-Pétersbourg et va s'installer dans ce qui était autrefois une résidence d'été mais qui ne le sera plus, qui deviendra la résidence permanente d'Alexandre III, de son épouse Maria Féodorovna, la fille du roi Christian IX de Danemark, et de leurs enfants. Et ce phénomène, qui se produit donc à partir de 1881, se produit une nouvelle fois pendant le règne de Nicolas II, même si Nicolas II, contrairement à son père, en fait, fait aménager une série d'appartements à partir de la mort de son père en 1894 au Palais d'Hiver, en fait, il ne va habiter au Palais d'Hiver, la résidence citadine des souverains russes, que jusqu'en 1905. À partir de 1905, il quittera quasiment définitivement le palais d'hiver, sauf pour les grandes manifestations officielles et la saison, comme on disait à l'époque, qui avait lieu après Noël. Et il va habiter, la plupart du temps, même pendant la saison, il va habiter le palais Alexandre de Tsarskoïe Selo, ce qui à mes yeux, représente une scission, une espèce de coupure
entre le tsar
et son peuple, et ce qui, je pense, va favoriser les événements de 1917.
Il perd son côté de personne sacrée pour devenir un khidam.
Il ne le perd pas encore, mais comme il est beaucoup moins tangible, le petit père, comme on l'appelait, ça n'est presque plus qu'un mot. Et à partir du moment où, justement, à la fois les drames de la guerre de 14, qui pèseront très lourdement sur la nation russe, et les difficultés économiques, plus les soulèvements fomentés par les révolutionnaires, tout cela, en effet, va finir par faire passer au deuxième plan ce respect quasiment spirituel. Il ne faut pas oublier que c'est l'empereur qui est le chef de l'Église orthodoxe, et il ne faut pas oublier non plus que, comme les rois catholiques, comme les rois de France, il est sacré, il est oint comme un évêque. Il va perdre immanquablement au début du XXe siècle, justement, cette qualité sacrée, comme vous le disiez.
Alors, arrive la révolution d'octobre, la famille impériale est arrêtée, emprisonnée, ensuite assassinée à Yekaterinbourg. Que deviennent toutes ces résidences quand le régime change et quand les bolcheviks arrivent au pouvoir?
Alors, là aussi, la question que vous me posez est l'occasion de détruire un préjugé qui est souvent français.
Alors, détruisons.
Nous envisageons souvent les révolutions étrangères comme la révolution française, en termes en tout cas de patrimoine. Et en termes de patrimoine souverain, nous imaginons que les bolcheviks se sont acharnés sur les résidences impériales, comme tout simplement les révolutionnaires se sont, à partir d'une certaine date seulement, acharnés sur les résidences royales françaises. Ça n'est absolument pas le cas. Le palais d'hiver, c'est vrai, la résidence citadine des empereurs de Russie est en effet envahie par le peuple plus que les révolutionnaires au départ et a à souffrir de quelques dégâts, mais relativement limités. Les palais impériaux des environs ont une administration comme le service des bâtiments ici en France, tout à fait efficace, bien organisée, et en fait, on retrouve... D'aucuns disent que les bolcheviks n'ont fait que chausser les souliers du régime impérial, ce qui est souvent vrai. On retrouve au tout début de la Révolution, en fait, ce qui se passait en France entre 1789 et 1793. On administre toujours les résidences. Ce qui se passe, c'est que comme on les considère désormais comme propriété du peuple, elles sont, c'est vrai, pour certaines d'entre elles, menacées, mais très peu de temps, et on envoie assez rapidement des gardes pour les protéger, et ensuite elles deviennent, étant la propriété du peuple, un instrument à la fois, j'allais dire, didactique, de propagande et d'orgueil historique. À l'époque, on se représente tout à fait ce, justement, qu'elle symbolise, c'est-à-dire la grandeur de l'Empire russe. Et le commissaire à la culture qui travaille aux côtés de Lénine, qui s'appelle Lunacharsky, est persuadé qu'il faut absolument les préserver. Alors, on les ouvre progressivement au public. C'est vrai qu'on les ouvre avec une vision un peu particulière. On veut en faire des instruments de propagande et on veut montrer combien la famille impériale se prélassait dans le luxe, absolument à 100 lieues de se préoccuper des difficultés quotidiennes du peuple russe. C'est une image d'Épinal. En attendant, elles sont protégées. Alors, le patrimoine qui est conservé dans ces résidences, qui est très très important, le palais de Gatchina, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, qui a 600 pièces, avait, avant la guerre de 14, un inventaire de 80 000 numéros. Ce sont des collections énormes.
Gigantesques.
Des tableaux, des objets, des meubles de toutes les époques, depuis le début du XVIIIe siècle. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut attendre en fait le début des années 20 pour que le régime bolchevique change de vision. Et la mort de Lénine en 1924 entre pour beaucoup notamment dans cette transformation, puisque après sa disparition, les vues de Lunacharsky ne seront pas partagées par de nombreux membres du gouvernement bolchevique. Et déjà avant la mort de Lénine, on décide de se séparer de certaines œuvres du patrimoine impérial, et notamment d'une partie des diamants de la couronne qui sont vendus en dehors de l'Union soviétique pour récolter des fonds, et notamment pour mettre en œuvre les politiques justement du gouvernement bolchevique. Eh bien, après 1924, ce phénomène s'accélère, et on va, j'allais dire, ponctionner dans les différentes résidences impériales des tableaux, des meubles, quelques objets qui seront d'abord mis en vente, et c'est là où l'histoire est assez instructive, qui seront d'abord mis en vente sur place à Leningrad, dans des magasins qu'on appelle des Kamissiani magazines, qui sont en fait des antiquaires qui sont chargés d'écouler certains objets provenant du patrimoine impérial. On se rend compte bien rapidement qu'il n'y a pas grand monde pour les acheter, si ce n'est les diplomates.
Et oui.
Et ce qui se passe, c'est que très vite, les bolcheviques essayent d'écouler ces biens patrimoniaux par d'autres biais, et notamment des ventes publiques, les plus connues étant celles qui sont organisées à Berlin à la fin des années 20 et au début des années 30, au plus mauvais moment d'ailleurs pour les soviétiques, puisqu'il correspond à la crise de 29. Et ces ventes sont connues sous le nom de ventes Lepke, puisqu'elles avaient lieu dans la maison de vente d'un auctionnaire, comme on dit en allemand, berlinois, qui s'appelait Rudolf Lepke. On vend, les catalogues existent toujours, on peut très bien voir ce qui a été envoyé par les bolcheviques. Ce qui est instructif également, c'est que tout n'a pas été vendu, parce que, par exemple, au moment où les bolcheviques mettent en vente une partie du patrimoine de la famille Stroganov, qui est une des plus grandes familles de l'Empire et qui avait un grand palais à Saint-Pétersbourg sur la perspective Nevski, non loin, construit également par Rastrelli comme le palais d'hiver. Au moment où ces biens sont mis en vente à Berlin, les héritiers de la famille Stroganov s'emploient à signifier aux potentiels acheteurs qu'ils seront poursuivis devant la justice européenne pour avoir acheté des choses qui leur appartiennent à eux. C'est pour ça que certains objets Stroganov, notamment qui figurent dans ces catalogues, reviennent en fait en Union soviétique. L'histoire a parfois des retournements sympathiques. Peut-être avez-vous entendu parler de la baronne de Ludinghausen, qui est l'héritière des Stroganov. Elle dit aujourd'hui, à qui veut l'entendre, mais Dieu merci, le patrimoine des Stroganov est resté en Russie, en tout cas pour une part. Il faut qu'il y reste à partir du moment où il est visible par le public. Donc ces ventes, en fait, amputent une partie du patrimoine des palais impériaux, ce qui va faire beaucoup plus de mal aux palais impériaux que la révolution bolchevique ou que même ces soustractions opérées soit par le gouvernement bolchevique, soit par le musée de l'Ermitage, parce que le musée de l'Ermitage, à l'époque, profite également de cette situation pour mettre la main sur les plus belles pièces des résidences d'été qui n'étaient, en tout cas jusqu'à la Révolution, pas sous sa juridiction, puisqu'elles étaient administrées séparément et que ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ermitage, il ne faut pas l'oublier, est en fait la réunion de 5 bâtiments qui sont le palais d'hiver, la résidence citadine des empereurs, le petit et le grand Ermitage et le nouvel Ermitage qui sont, j'allais dire, les bâtiments du musée impérial créé à partir de Catherine la Grande, et ensuite le théâtre de l'Ermitage. Ce qui va faire le plus grand mal, c'est
la Seconde Guerre mondiale.
L'occupation, en effet, oui. Nazie.
Là, les destructions sont considérables.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les destructions sont considérables parce qu'en fait, un plan a été préparé par les bolcheviques, enfin plus exactement par les soviétiques, dans les années 30 pour un sauvetage éventuel des œuvres d'art au cas d'une invasion du territoire soviétique. Le drame, c'est que ce plan, en fait, n'existait au moment de l'invasion nazie que sur le papier. Et les soviétiques se trouvent pris de court. Et le grand drame, c'est qu'en fait, ils n'ont pas assez de matériaux pour emballer tout ce qui se trouve dans ces résidences impériales. Ils ont très peu de temps. Je schématise un peu parce que la situation n'est pas la même pour toutes les résidences d'été autour de Saint-Pétersbourg, mais on en voit de certaines, par exemple, pour des ensembles de mobilier, un fauteuil et une chaise qui permettront d'avoir toujours un élément original dans le futur. On emmure des statues, par exemple à Pavlovsk, on les enterre pour qu'elles ne soient pas découvertes par les troupes d'occupation. Et une partie du patrimoine mobilier et des œuvres d'art conservées dans les palais d'été sont en fait déplacées, les plus précieuses, très rapidement dans le centre de la ville à Leningrad et notamment dans la cathédrale Saint-Isaac, et qui est, il ne faut pas l'oublier, le troisième plus grand sanctuaire de la chrétienté occidentale après Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul de Londres, et qui devient une espèce d'immense entrepôt. Et puis progressivement, on envoie, parce que les troupes nazies se rapprochent de plus en plus de Leningrad, on envoie ces œuvres d'art en fait en Sibérie. C'est là que de nombreuses œuvres d'art, de nombreux tableaux, de nombreux meubles seront sauvés. Ceux qui sont restés en fait dans les résidences ont été quasiment toujours voués à la destruction. Les légendes ne manquent pas sur ce qu'il est advenu de certaines de ces œuvres d'art, par exemple le salon d'ambre.
Voilà, j'allais vous en parler.
Parce que c'est l'eau qui a fait couler, qui fait couler encore beaucoup d'encre.
Aujourd'hui.
Vous savez qu'en fait, le salon d'ambre est un cadeau de l'électeur de Brandebourg à Pierre le Grand au début du XVIIIe siècle, qu'il est envoyé à Saint-Pétersbourg, qu'il est monté dans un des palais d'hiver, le troisième palais d'hiver au milieu de la ville, mais démonté ensuite sur les ordres d'Élisabeth Ière pour être remonté dans le palais de Tsarskoïe-Selo. Il est à cette date légèrement agrandi et l'architecte Rastrelli trouve des moyens assez ingénieux justement pour adapter cette fameuse boiserie faite de millions de morceaux d'ambre à la pièce telle qu'elle existait dans le palais de Tsarskoïe-Selo. Bizarrement, les soviétiques ne démontent pas le salon d'ambre au moment où ils mettent à l'abri des œuvres d'art provenant de Tsarskoïe-Selo. Peut-être justement parce que à l'époque, ils ne le considèrent pas comme un trésor d'art russe, mais justement comme un trésor d'art allemand. Les nazis, j'emploie le terme parce que c'était le terme qu'employaient les soviétiques jusqu'il y a très peu de temps. Les nazis, évidemment, le démontent immédiatement et l'envoient à Königsberg, où il est immédiatement remonté dans le château, le Stadtschloss de Königsberg. Et à la fin de la guerre, les choses se compliquent, on ne sait pas ce que
devient la chambre d'ambre.
Du salon d'ambre. On ne sait pas si le salon est démonté à nouveau, mis en caisse et envoyé dans, on disait autrefois, les mines de sel, de la Silésie par exemple, ou bien s'il reste sur place. On ne sait donc pas s'il brûle au moment où le château de Königsberg disparaît dans les flammes. Et commence une espèce de roman policier sur ce salon d'ambre. On dit même que certaines personnes ont trouvé la mort en essayant d'enquêter sur sa disparition et sur son éventuelle dissimulation justement en Allemagne de l'Est par des Allemands non pas justement pro-DDR, mais au contraire en faveur de l'Allemagne de l'Ouest. Et pendant de nombreuses années, on dit un jour, le Salon d'Ambre ressurgira. Le Salon d'Ambre n'a pas ressurgi, pas plus en 1960 que 70 que 80, ce qui a engagé les soviétiques justement à le reconstruire, le reconstituer. Et ça me donne l'occasion, parce que ça non plus, il ne faut pas l'oublier, et il ne faut pas laisser perdurer un autre préjugé qui est souvent fréquent en Europe occidentale, qui est que les soviétiques n'avaient pas véritablement d'intérêt pour leur patrimoine historique. C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est immédiatement après la guerre que certaines de ces résidences d'été, et notamment le palais de Pavlovsk, sont restaurées alors que l'Union soviétique est dans un état catastrophique. Le gouvernement, c'est vrai, poussé par quelques personnalités essentielles, clés, qui réussissent à convaincre les soviétiques qu'il faut justement faire revivre ce patrimoine, eh bien le gouvernement engage des sommes très importantes pour d'abord restaurer le palais de Pavlovsk, restaurer celui de Peterhof, puis celui de Tsarskoe Selo, l'un des seuls en effet qui est jusqu'à aujourd'hui ait été assez malmené, parce que c'est celui dont je disais tout à l'heure qu'il était le plus loin de la ville, c'est celui de Gatchina, qui est toujours en restauration, alors que les autres, je ne dis pas sont quasiment terminés, mais sont très très largement restaurés à l'heure où nous parlons. Eh bien, les soviétiques, donc, dans les années 70, décident de reconstituer le Salon d'Ambre, et c'est une entreprise absolument fantastique qui va employer des dizaines d'artisans, ce qui est essentiel dans un pays comme l'Union soviétique, justement pour conserver des techniques justement assez particulières. Il faut voir que la technique de la mosaïque de l'ambre s'apparente par certains côtés à une technique tout à fait russe qu'on appelle la mosaïque russe de pierre dure. C'est donc dans les années 80-90 qu'on patiemment reconstitue ce salon d'ambre qui sera inauguré en 2003 au moment de l'inauguration, au moment de la célébration, pardon, du tricentenaire de la ville. J'appelle votre attention sur le fait que les Russes cherchent actuellement des fonds pour restaurer non plus le salon d'ambre, mais ce qu'on appelle les chambres d'agate, qui, Dieu merci, elles n'ont pas été détruites, alors qu'elle se trouve également à Tsarskoe Selo, mais dans un bâtiment qui est distinct de celui du Grand Palais, du palais qu'on appelle le Palais Catherine. Les Russes, et M. Sautov, qui est le directeur du palais de Tsarskoe Selo, Mme Bott et Mme Bardovskaya, avec lesquelles je travaille depuis longtemps, cherchent des fonds pour restaurer les chambres d'agate, qui sont des pièces tout à fait fantastiques, que le comte de Ségur, envoyé plénipotentiaire de Napoléon Sa Majesté III. Très chrétienne, avait déjà remarqué au XVIIIe siècle en disant qu'il était transporté dans les intérieurs d'Armide, parce que ce sont des pièces qui sont couvertes de mosaïques de jaspe du parquet jusqu'au plafond, et qui sont sans doute une des plus belles expressions de l'architecture néoclassique européenne construite par Charles Cameron dans les années 1780. Donc vous voyez, le travail, j'allais dire, a progressé déjà pendant la période soviétique largement, mais il progressera encore. Et les Russes ont toujours besoin d'aide.
Alors, il faut conclure, mais auparavant, j'aimerais... On voit beaucoup actuellement de projets surgir à Berlin. On veut reconstruire l'ancien palais royal. Il est question, et c'est un serpent de mer à Paris, de reconstruire le pavillon des Tuileries. Et alors, est-ce qu'il y a aussi dans les cartons des conservateurs de Saint-Pétersbourg le projet de faire ressurgir, comme ça, quelques palais qui auraient été détruits lors de la Seconde Guerre mondiale ?
Non. Parce qu'en fait, aucun grand palais impérial russe à Saint-Pétersbourg n'a été entièrement détruit. Le palais de Peterhof a été très largement endommagé, celui de Tsarskoe Selo également, celui de Pavlovsk avait quasiment entièrement disparu, mais ils ont déjà été reconstruits. Donc, pour l'instant, les directeurs et les conservateurs de ces résidences d'été, en fait, s'attachent plutôt à restaurer les intérieurs qui ne l'ont pas encore été, ou bien à restaurer des pavillons dans les parcs. On a restauré il y a quelques années, par exemple, et notamment avec le soutien de la maison Veuve Clicquot-Ponsardin dont le président était à l'époque M. Joseph Henriot, on a restauré le pavillon des Roses à Pavlovsk. Récemment ont été réouverts à Peterhof le pavillon Tsaritsyn et le pavillon Holguin, dont je parlais tout à l'heure, les pavillons néo-grecs construits vers 1840. Et le directeur des palais de Peterhof et celui des palais de Tsarskoye Selo a le désir de reconstituer ou de restaurer certains des pavillons des parcs. En fait, les reconstitutions, je dirais, ex nihilo, seraient plutôt un phénomène moscovite. D'abord, permettez-moi de dire que si le château royal, le Stadtschloss de Berlin, est reconstruit, je crois que tout le monde pourra s'en féliciter, parce qu'il est absolument nécessaire pour venir clore la perspective de Unter den Linden. Je ne suis pas certain que la reconstruction du palais des Tuileries soit une chose qui s'impose. Pour moi, pas véritablement. À Moscou, il y a en ce moment plusieurs projets de reconstitution ou reconstruction qui sont assez symboliques, et même si en effet le sujet de l'ouvrage n'est pas moscovite, je pense qu'il n'est pas indifférent éventuellement de conclure sur une question comme celle-là, parce qu'elle éclaire beaucoup sur la vision justement que les Russes ont de leur patrimoine et de leur histoire. Vous avez à Moscou un grand palais qui s'appelle le palais de Tsaritsyno, qui n'est pas très connu parce qu'en fait il n'a jamais été terminé. C'est un palais gigantesque qui fait également plusieurs centaines de mètres de long et qui est une invention extravagante d'un grand architecte russe de la fin du XVIIIe siècle qui s'appelait Bajenov et qui a travaillé pour Catherine II, notamment au Kremlin, puisqu'il a construit le grand bâtiment du Sénat, qui est toujours existant et utilisé par le gouvernement russe. Le palais de Tsaritsyno, j'essaye de trouver le terme pour le décrire, c'est une espèce de gigantesque bâtiment gothico-byzantin, en briques et en pierre, avec des fenêtres ogivales, des colonnes semblables à celles des cathédrales, et qui a été construit donc pour Catherine II et puis pour son fils Paul Ier, mais pendant le règne de Catherine II. Et il n'a jamais été terminé, mais on ne l'a jamais détruit. Donc les murs, ce sont des murs qui s'élèvent jusqu'à 20 ou 25 mètres de haut. Ça n'est pas une,
c'est toujours à l'échelle russe.
Ah oui, ça n'est pas une petite
bâtisse. Pas dans la demi-mesure.
Et puis en plus, il y a non seulement un grand palais, mais il y a ce qu'on appelle Kavalierski Korpus et Katerinski Korpus. Il y a des bâtiments, j'allais dire, secondaires qui sont également très grands. Eh bien, le maire de Moscou, M. Loushkov, a le projet de terminer aujourd'hui, au XXIe siècle, ce qui n'a jamais été terminé au XVIIIe siècle. Pour prouver, à mon avis, comme d'ailleurs les restaurations, j'allais dire, qui ont eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, étaient un moyen pour les soviétiques de prouver à la face du monde que le régime soviétique pouvait tout réussir à partir du moment où il avait
l'histoire.
Décidé justement de le réussir, y compris en effet terminer l'histoire. Eh bien, les moscovites désirent terminer ce palais de Tsaritsyno. Le projet qui est encore plus extravagant, parce que là au moins les murs existent et il faut couvrir les bâtiments et les aménager à l'intérieur. Mais c'est un projet
colossal, oui.
Colossal. Il y a un autre projet encore plus colossal qui est la reconstitution du palais de Kolomenskoye, qui est un palais de bois qui a été détruit sur l'ordre de Catherine II dans les années 1770 et qui était en fait l'ancien palais de bois des tsars de Moscou, et où notamment avait habité le tsar Alexei Mihailovitch. Et ce palais, il n'en reste rien, mais absolument rien. La seule chose qu'il en reste, en dehors de certains des bâtiments qui sont toujours sur place, c'est un très bel endroit qui est à Moscou, au bord de la Moskova, un peu éloigné du centre de la ville. Et il y a une des plus belles églises, d'ailleurs, de Russie, en pierre, qui n'a pas été détruite sous Catherine II. Mais du palais de bois, il ne reste rien, si ce n'est une énorme maquette faite justement au XVIIIe siècle pour garder la trace de ce bâtiment qui est très moscovite d'aspect, c'est-à-dire complexe, pour ne pas dire biscornu, avec des pinacles dans tous les sens, des frontons de bois en accolade, des corps de bâtiment en rondins, d'autres en bois mais simulant la pierre. Enfin, je ne pourrais pas vous le décrire tellement il est justement complexe. Eh bien, ce palais, qui n'existe plus, les moscovites ont le désir de le faire ressurgir de terre. Et je crois que c'est une bonne leçon pour nous. La Russie, on en dit souvent du mal. On dit du mal du régime de M. Poutine. Je ne suis pas certain que quelqu'un d'autre que lui pourrait arriver à juguler toutes les forces en présence, justement, qui existent en ce moment en Russie. Non pas que je sois d'accord avec toutes ces décisions, loin de là. Mais il a l'avantage, à mon avis, d'avoir une certaine autorité. Et il ne faut pas oublier que les Russes ont toujours aimé les souverains qui en avaient de l'autorité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Russes ont souvent été déconsidérés, mal considérés depuis la Révolution, depuis le début du XXe siècle, à la fois parce que, en effet, la Russie, l'Union soviétique, était inaccessible, en plus parce qu'elle avait un régime qui était particulièrement éprouvant, eh bien, les Russes, je dirais, ont une revanche à prendre sur l'histoire. Et comme les Soviétiques avaient une revanche à prendre sur la Deuxième Guerre mondiale et ont fait toutes ces restaurations qui m'ont permis, avec Marc Walter, de faire ce livre dont nous avons parlé, aujourd'hui, les Russes ont besoin de prouver à la face du monde qu'ils sont encore un grand peuple, que donc rien ne leur est impossible. Par exemple, la reconstruction de bâtiments qui ont totalement disparu. Je crois que c'est une petite chose à méditer pour nous, parce que nous voulons toujours les voir comme nous. Nous voulons toujours mettre dans leur esprit nos schémas intellectuels. Nous voudrions qu'ils réagissent comme nous. Nous voudrions qu'ils agissent comme nous. Et pourquoi donc ?
Emmanuel Ducamp, merci. Merci de nous avoir fait voyager dans le temps, de nous avoir fait voyager dans l'espace. J'ai envie de dire qu'on n'a plus qu'un désir, après vous avoir écouté nous présenter ces palais impériaux, ces palais d'été, c'est de prendre son billet d'avion et d'aller directement à Saint-Pétersbourg. Je rappelle à nos auditeurs le titre de votre livre paru aux éditions Duchesne, « Les palais d'été des tsars », les photographies, les superbes photographies sont de Marc Walter et vous êtes, vous, Emmanuel Ducamp, l'auteur du texte de ce très bel ouvrage. À bientôt !